selon Luther, le Fils et le Saint-Esprit passent sur cette image. Le passage d'Évangile qui vient d'être lu s'arrête, vous l'aurez remarqué, à la première partie seulement d'un des plus beaux poèmes de l'Écriture sainte, et même, j'ose le dire, d'un des plus beaux poèmes de l'humanité du cours, je parlais du Magnificat. Et je trouve qu'il est très dommage qu'on s'en soit arrêté là. Alors, l'Église a ses raisons, vous jugerez de ma manière, bien sûr, mais je ne peux m'empêcher de vous dire quelques mots supplémentaires tout de même. Il élève les hommes et il relève Israël, son serviteur. La Vierge Marie, qui était prophète à l'occasion, ne pesa sans doute pas la portée insondable de ces simples mots. Élevé, tel qu'il fut toute sa vie, l'humilité incarnée. Relevé Israël, ou plutôt relevé celle qui en fut le plus bel enfant, la fierté de Sarah, la fille de Sion, qu'on vend à la fin de cette lecture du livre de Judith, qui nous a été lu en première lecture, c'est ce que fit précisément le Tout-Puissant, un beau jour, dont l'Écriture sainte ne précise pas la date, en faisant monter dans la gloire de Dieu cette Marie de Nazareth, petite femme, en son âme, bien sûr, mais ça c'est le cas déjà de tout un chacun, j'allais dire, enfin, de toute personne qui a la grâce de monter tout de suite au ciel parce qu'il le mérite, parce qu'il est saint, mais aussi, et c'est là tout à fait extraordinaire, dans son corps. Bien qu'elle sente depuis l'enfance, cette petite Marie de Nazareth, que Dieu récompense toujours au centuple celui qui se donne sans compter, qui s'abandonne totalement à sa volonté, Notre-Dame, c'est certain, ne pouvait pas deviner le privilège qui serait le sien d'être enciéré le Père Nébo, enciéré puisqu'enterré, corps et âme, dès la fin de son existence terrestre. On peut imaginer son émerveillement, jamais le penser, parce qu'on pense à notre propre émerveillement, vous voyez comme nous sommes égocentriques en permanence, mais on peut imaginer, c'est clair, imaginer cela, le propre émerveillement de la Vierge Marie. De se voir ainsi emmener si haut, plus haut que tous les anges, nous dit-on, tout près de Jésus, sur le cœur de celui qu'elle avait porté et qu'elle avait, dont elle s'était occupée depuis le plus jeune âge, juste devant le Père, qui était la fille de prédilection, et en présence immédiate de ce Saint-Esprit auquel elle n'avait jamais cessé d'être docile pendant toute son existence. Surprise, rapidement, dans cet âme, dans ce cœur qui saint et pur de la Vierge Marie, au point sans doute qu'un nouveau Magnificat, on peut le croire, a jailli de son âme, à défaut de sa bouche, en des termes qu'il n'est pas permis, je crois, à nous autres que la terre, de comprendre ni même d'entendre. Ce sera beaucoup plus tard, et je vous promets que la surprise se rappelle. Les spectateurs de cette scène n'en rapportèrent d'ailleurs pas un autre coup. C'est très étonnant, on nous dit, la tradition nous rapporte que quelques apôtres au moins étaient là, au moment de cet événement merveilleux, la montée de Marie dans les cieux. Personne n'en parle, à l'exception, bien sûr, du disciple bien-aimé qui avait recueilli chez lui la Sainte Mère de Dieu, au chapitre 12e de l'Apocalypse, ce chapitre que nous avons repris en guise de chant d'entrée, sans cesse cette rengaine doit revenir dans les villes, un signe grandiose apparu dans le ciel, une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, 12 étoiles couronnent sa tête. Trop maigre description, bien sûr, pour un si redoutable spectacle. Une question, cependant, dans ce ravissement-là, on peut m'empêcher de continuer à faire fonctionner mon intelligence qui cherche à comprendre pourquoi a-t-il fallu attendre 1950, c'est-à-dire à peu près 19 siècles depuis cet événement fameux, pour que soit proclamé solennellement par le pape Pie XII le dogme de l'Assomption. Et ceci, alors que l'Église y adhérait de tout son cœur depuis le début, comme en témoignent la plupart des écrits des pères de l'Église. Pourquoi 1950 et pas un autre moment? Vous vous doutez bien qu'il existe une sorte de géopolitique du bon Dieu, comme elle va dire le Testament, une géopolitique de la Vierge, parce que je pense qu'elle n'y est pas pour rien dans la proclamation de la dogme qui la concerne. Je crois que cela était opportun, plus que jamais, parce qu'on avait à cette époque-là, dans les années 50, un début d'exaltation, me semble-t-il, déséquilibré du corps. On n'avait bien sûr encore rien vu par rapport à ce qui allait se passer 18 ans plus tard, en 1968 ou 19 ans plus tard, à Woodstock, où on n'avait encore rien vu par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, où l'on fait du corps une telle marchandise qui s'étale sur tous les espaces publicitaires et qu'on nous dit que les sites pornographiques sont parmi les plus fréquentés de la toile, qui porte bien son nom sur ce point. L'Assomption est, je crois, le moyen qui nous aide à comprendre que le corps et l'âme ont une relation indissociable. Qu'on ne fait pas ce qu'on veut de son corps sans qu'il advienne quelque chose pour son âme. qu'on ne fait pas n'importe quoi à son âme sans qu'il advienne invariablement quelque chose pour le corps en fonction de ce que l'âme aura vécu. Le corps et l'âme de la Vierge sont si intimement unis que le sort éternel, glorieux de l'âme de Marie ne souffrait pas que son corps attendit plus longtemps avant de sortir soit du tombeau, si longtemps qu'elle est morte, soit de son lit où elle s'était endormie, si l'on pense qu'effectivement elle a vécu de la dormition. L'Assomption est pour nous, mes frères, pas seulement pour cette société contemporaine, qu'il est trop facile de vilipender si l'on ne commence pas soi-même par se remettre en cause. Nous avons un propre déséquilibre quant au rapport qui existe entre notre corps et notre âme, et bien nous avons là un avertissement. L'Écriture dit, Jésus dit, l'un de ton trésor, là est son cœur. Aujourd'hui, dans le mystère de l'Assomption, on nous rappelle avec force, là où ton âme se sera orientée, là où est ton âme, là sera ton corps. Vous voyez que je pense qu'il était vraiment opportun qu'à cette époque-là, totalement déséquilibré par rapport au corps, on exalte le corps, on sous-estime l'âme et on dissocie les deux, selon la bonne vieille ritournelle dualiste, qui, comme un serpent de mer, revient sans cesse dans la pensée humaine, on nous rappelle que nous sommes tout un et que nous aurons une destinée qui concernera l'esprit, la même destinée. Marie, parce qu'elle fut parfaitement orientée vers Dieu tout au long de sa vie, fut dès lors totalement orientée dans son corps vers ce Dieu qu'elle aimait. Il y a encore, je crois, un deuxième ennemi dont la Vierge Marie écrase la tête en permettant cette proclamation du dogme en 1950 de l'Assomption, c'est que dès lors, on avait déjà les premiers soubresauts d'un féminisme rampant, et même d'un féminisme triomphant, quelques années plus tard. C'est dans les années 50 que l'on commença à commenter toutes sortes de saloperies, si on passe le terme, dans cet espace sacré, quant à vous, mes bien chères sœurs, mesdemoiselles et mesdames, c'est-à-dire qu'on a voulu prétendre que la femme, pour accéder au sommet, devait refuser ce qu'elle était profondément. Vous voyez le paradoxe, et vous voyez quelle est la signature qui trône au bas de cette page. C'est évidemment l'ennemi du genre humain. C'est Satan qui ne s'est pas satisfait de s'en prendre à cette pauvre Ève, mais qui de génération en génération vient mordre au talon. Évidemment, on nous dit que la femme sera exaltée à mesure qu'elle détruira habituellement la fécondité dont elle est capable, par une contraception systématique. C'est qu'il faudrait, mais peut-être une loi viendra dans quelque temps, rendre obligatoire cette contraception. D'autre part, on nous dit que la femme sera au sommet, qu'elle sera au sommet de sa gloire, si elle refuse, au moins partiellement, la maternité, qui est considérée, vous bien le remarquer, aujourd'hui, bien que tout même survit l'image sympathique de la femme enceinte et de la femme avec son bouchon, il faut bien remarquer tout même que cette maternité, il faudrait qu'elle reste un peu au périphérique, qu'elle ne prenne pas trop le cœur de la vie de la femme. Son cœur est ailleurs, bien sûr, dans la réalisation personnelle d'elle-même. Il ne faut surtout pas qu'elle vive d'une maternité plénière, qui est considérée comme une entrave, comme une charge intolérable. Eh bien, l'Assomption, c'est, je crois, l'antidote de ce poison terrible qui ravage les femmes et qui ravage toute l'humanité partout. La femme parvient au sommet, et Vierge Marie est tellement au sommet qu'elle est non seulement au-dessus de toute la création matérielle, terrestre, mais elle est même, je vous l'ai dit, la reine des anges. Il n'y a que Dieu qui soit au-dessus d'elle, désormais. La Vierge Marie, c'est la femme, on l'appelle la femme dans la Bible, c'est pas Marie, c'est la femme parvenue au sommet, qui n'a obtenu de cette gloire qu'en acceptant une fécondité et une maternité qu'elle n'avait d'abord pas envisagée, à laquelle même, auquel même, elle se refusait, si l'on en croit la tradition du vœu de consécration totale de la Vierge Marie dans son enfance. Marie a révisé son projet, comme vous le savez, parce que tel était le plan de la sagesse divine. Parce que Dieu savait que son bonheur serait de vivre de cette fécondité charnelle et de vivre de cette maternité. Et quelle maternité ? Vous voyez, je ne voudrais pas réduire les dogmes à une espèce de marteau des hérésies. Ça ne sert pas qu'à cela, un dogme, à faire une erreur. Ça sert également à exalter Dieu et son œuvre et à nous rendre heureux. Mais je crois qu'il est intéressant de voir en quoi ce dogme-là peut nous permettre aujourd'hui de résoudre un certain nombre de problèmes. Je leur viens, ce sera ma conclusion, à un moyen que nous avons de lutter. C'est bien de descendre dans la rue tout à l'autre pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se fait, ce féminisme triomphant, cette exaltation déséquilibrée du corps, c'est très bien. Mais je crois qu'il existe une autre manière tout irréductible de d'en finir avec ces erreurs, au moins de les agrandir, c'est tout simplement de contempler ce mystère, c'est très étonnant, de prier la Vierge Marie que nous puissions plus intimement vivre de cette contemplation de l'Assomption dans son corps et dans son âme, de sorte que vraiment jusqu'à nos cris, jusqu'à nos fibres les plus intimes, pénétrer ce mystère, nous en soyons rayonnants autour de nous. Et qu'on ne s'y trompe pas, le cœur humain a beau aujourd'hui être mal en point, il demeure le cœur humain, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il aspire au bien. Et quand un cœur humain voit d'un côté une société qui court à sa perte, ayant de la femme d'une telle image, ayant du corps d'une telle image, et quand d'autre part, il constate un spectacle de chrétiens convaincus jusqu'au tripes, jusqu'à la moelle, parce qu'ils ont contemplé ce spectacle de l'Assomption, croyez-moi bien, en définitive, leur cœur penchera du bon côté. Donc, Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi.